Donc la conférence à laquelle vous allez assister cet après-midi, la conférence qui va clore donc, ces journées de l'enfance. Pendant ces 10e journées de l'enfance, les différents intervenants ont essayé de dégager les conditions d'une continuité éducative. Madame Melin, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille 3 au laboratoire Professeur Cyrel.
Tout à fait.
Cette dernière conférence va replacer la continuité éducative dans le cadre scolaire, puisque Madame Melin va traiter de cette continuité dans un lycée expérimental dédié au raccrochage scolaire. Le titre en entier est « Quelle articulation entre apprentissage informel et forme scolaire ?» Actuellement, le décrochage scolaire concerne environ 450 000 jeunes. C'est un chiffre qui date de 2016. On peut définir le décrochage scolaire comme une expression qui évoque à la fois la déscolarisation, les ruptures scolaires et les sortants précoces. Les caractéristiques de ces décrocheurs sont les suivantes. Ce sont des jeunes décrocheurs, selon la définition qui est adoptée par l'Union européenne, qui sont âgés entre 18 et 24 ans. Cette définition aussi adoptée par l'Union européenne définit aussi ce jeune comme un sortant précoce, âgé donc de 18 à 24 ans, qui n'est ni scolarisé, ni en formation et qui n'a pas atteint un niveau de qualification de CAP ou baccalauréat. Les politiques de lutte contre le décrochage scolaire menées depuis plusieurs années dans notre pays ont permis un net recul. Cette baisse se traduit dans toutes les académies, certains ayant réussi à faire reculer ce phénomène, même dans les territoires les plus difficiles. Pour autant, un nombre important de jeunes continuent à sortir du système sans diplôme. D'importants moyens doivent être alors déployés pour les identifier et leur proposer une seconde chance. Pour limiter au maximum ces actions de raccrochage, il est nécessaire d'agir en amont, à la fois dans la prévention par tous les élèves et dans des actions ciblées pour les élèves présentant le plus de risques. Ça, c'est vraiment une opinion qui est partagée par le CNESCO. Parmi les politiques de prévention, on peut citer le dispositif qui est mis en place dans un certain nombre d'établissements de l'Académie de Rouen, connu sous le nom de Motivaction, comme dans le Collège Roncherolles à Bolbec ou le micro-lycée d'Évreux. Il s'agit de détecter en amont des élèves qui peuvent être en situation de décrochage. On leur fait passer des tests et à l'issue des tests, on leur donne un mentor et il y a un travail étroit qui est fait entre le mentor, la famille et l'élève. Ce dispositif est vraiment la traduction française d'une recherche-action qui a été menée au Québec. Madame Melin va nous présenter des actions de raccrochage. Donc on est dans le contraire de la prévention, qui sont menées au lycée, au micro-lycée de Sénart. Il n'est accessible qu'à des jeunes en situation de décrochage depuis au moins 6 mois, voire 1 an. La valorisation du temps de décrochage par l'équipe éducative repose sur la conviction que ce moment de suspension rend possible des prises de conscience et des expériences inédites qui peuvent s'accompagner dans un contexte éloigné de la forme scolaire, du développement de ressources, voire de compétences nouvelles. L'enjeu du raccrochage consiste en particulier à trouver des modes d'articulation, entre l'apprentissage informel et une forme scolaire qui ne vont pas de soi. Cette intervention se propose d'examiner quelles sont les difficultés spécifiques et les démarches pédagogiques que les enseignants mettent en œuvre avec les jeunes raccrocheurs pour dépasser ces tensions. Valérie Melin est une chercheuse qui interroge son propre milieu professionnel. En effet, son entrée dans la recherche trouve son origine dans le besoin qui s'est fait pressant il y a quelques années de penser sa pratique d'enseignante dans une structure dédiée au raccrochage de jeunes aspirants à reprendre leurs études après un temps de décrochage. Afin de poursuivre le travail d'expérimentation sur lequel reposait son activité professionnelle et de clarifier le sens de son engagement militant dans ce dispositif, il lui est devenu nécessaire d'adopter un retour réflexif qu'il a fallu dépasser pour accéder au statut de praticien-chercheur. C'est pourquoi cette conférence est intéressante pour moi à deux niveaux. D'une part, elle est le témoignage d'un professionnel qui a interrogé son dispositif éducatif où elle a enseigné et ses propres pratiques professionnelles pour en définir une thématique de recherche, celui du raccrochage scolaire. En effet, sa thèse s'intitulait « Le raccrochage scolaire, une épreuve bibliographique ». Le second intérêt réside dans le fait que l'élève est vraiment placé au centre des recherches Et parce qu'on va interroger le parcours biographique, ses difficultés, son projet, ses problématiques identitaires. Et ces analyses rejoignent vraiment les préoccupations de des organisateurs de ces journées, où on place vraiment l'élève au centre des points de vue.
Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir pour présenter une des dimensions de la réflexion qui est la mienne autour justement des enjeux du raccrochage scolaire et ses difficultés. Voilà. Donc, on est dans un contexte où on réfléchit ensemble sur cette question de la continuité éducative et vous comprenez bien qu'elle est tout particulièrement déterminante quand il s'agit évidemment de contribuer au raccrochage de jeunes qui ont décroché, puisque le décrochage signifie bien une discontinuité qui a été véritablement inaugurée par le moment de rupture avec l'institution scolaire. Durant cette période de déscolarisation, l'éducation informelle, telle que Coombs l'a définie dans la crise mondiale de l'éducation, à savoir un processus d'acquisition et d'accumulation de connaissances et de capacités tirées des expériences quotidiennes et de l'exposition à l'environnement immédiat, a pris toute sa place dans l'existence de celui qu'on nomme décrocheur. Et on peut même dire d'ailleurs que le temps d'arrêt des études a pu même renforcer des pratiques formatrices ayant lieu en dehors de l'école, et impliqué d'ailleurs parfois dans la causalité complexe du décrochage. En quoi consistent ces expériences formatrices qui ont pu avoir lieu durant cette période de déscolarisation? Eh bien, on peut s'imaginer qu'en groupe, parmi ses pairs ou dans la solitude, ont pu être mises en place des pratiques informatiques, des jeux de rôle, des activités culturelles, qu'elles soient dans le cadre d'associations ou non, et aussi des expériences personnelles vécues comme des lieux de prise de conscience et de transformation. Toutes ces pratiques mettent en œuvre une éducation informelle et des pédagogies implicites. Ces pratiques contribuent très fortement à construire et à définir l'identité du jeune. Le retour aux études va donc justement confronter le jeune qui cherche à reprendre ses marques d'élève à la forme scolaire, norme de l'apprentissage et du savoir, et nécessairement mettre en question cette identité construite et définie durant le temps de la déscolarisation. Du côté des enseignants, il faut bien qu'il y ait de leur part une prise en compte de ce vécu antérieur dans le cadre de leur accompagnement pédagogique, justement pour favoriser un principe de continuité et de cohérence éducative. Il est important de faire en sorte pour les enseignants de contribuer à la restauration d'une continuité biographique entre un passé de décrocheur et un nouveau projet de soi qui intègre formation et perspective de diplomation. Alors, pour comprendre dans quel contexte, justement, ce travail d'articulation entre l'éducation informelle qui a constitué le cœur de l'expérience formative des jeunes durant le décrochage et la forme scolaire avec laquelle ils renouent en reprenant leurs études, pour comprendre ce contexte, il faut que je vous brosse un peu le portrait de ce qu'est une structure expérimentale de raccrochage scolaire, et en particulier le micro-lycée de Sénart. Dans la suite, au lieu de dire systématiquement micro-lycée de Sénart, je dirais MLS, c'est l'acronyme, et c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc, ce micro-lycée de Sénart, ce MLS, il est né quand ? Il est né en 2000, à la suite d'un colloque qui a eu lieu à Lyon en 1998 et qui s'est préoccupé justement de la question des lycéens décrocheurs. L'objectif de ce colloque, c'était justement de réfléchir sur les processus et les enjeux de la déscolarisation afin de sensibiliser les pouvoirs publics qui, à cette époque, ne s'en préoccupaient pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est dégagé durant ce colloque ? L'idée que le décrocheur, c'était un analyseur des dysfonctionnements de l'école. Et que, par conséquent, l'école, elle avait un rôle à jouer en étant à elle-même son propre recours pour permettre à ces jeunes de renouer avec l'école dans des structures adaptées à un public plus sensible à la violence institutionnelle de l'école et à ses incohérences que la majorité des élèves. Donc, des pédagogues militants ont soumis au ministère de l'Éducation nationale des projets de structures scolaires pour justement rendre possible cette nouvelle rencontre pour des jeunes qui avaient rompu justement avec l'école. L'idée, c'était finalement d'expérimenter une nouvelle rencontre en s'appuyant sur l'innovation dans l'apprentissage de savoir émancipateur, ce qui est quand même le propre de l'école républicaine, et la valorisation du jeune en tant que personne. Donc, comme je disais, ces premières structures sont nées en 2000, et le micro-lycée de Sénart, le MLS, donc, il s'est implanté dans la région parisienne, en Seine-et-Marne. Ces établissements scolaires dédiés au raccrochage, ils ont pour objectif, hein, c'est une des spécificités justement de ce qu'on appelle les micro-lycées, de préparer à un diplôme. En l'occurrence ici, il s'agit du baccalauréat général et technologique. Micro-lycée, ça veut dire une petite structure d'une centaine de jeunes. Pourquoi ? Parce que justement, ça permet une prise en charge beaucoup plus individualisée, en particulier à travers un dispositif de tutorat. Comment sont-elles organisées ? Eh bien, elles sont organisées et prises en charge par une équipe pédagogique qui est organisée de façon collégiale. Le projet de cette équipe, c'est d'être dans une forme d'expérimentation constante et de transformation des pratiques pour répondre aux besoins des élèves. On voit bien dans ces quelques phrase qui présente le projet du micro-lycée de Sénart, que la continuité éducative, elle est justement au cœur des préoccupations des enseignants, justement, qui construisent ces dispositifs, puisque le jeune y est bien au centre, avec ses besoins, ses difficultés et ses ressources. Par ailleurs, le professeur qui travaille à plein temps, il n'est pas seulement un enseignant, mais il est aussi éducateur. Il enseigne certes, mais il se voit aussi chargé avec ses pairs de toutes les missions relatives à la gestion de la vie scolaire. Ce fort investissement individuel, il repose évidemment sur une interrogation constante du métier qui va induire une transformation de la professionnalité enseignante. Ce processus de réflexivité et de transformation, il est soutenu. Parce qu'il n'est pas simple à vivre et à mettre en œuvre, il est soutenu par le travail en équipe lui-même et aussi par l'intervention de chercheurs qui ont pour but d'accompagner la dynamique de réflexion collective. Maintenant, si on essaye d'aller voir d'un petit peu plus près en quoi justement cette structure consiste. Déjà, il y a un point important, c'est que les jeunes qui sont rescolarisés ont fait la démarche volontaire donc, d'y venir. Une fois qu'ils sont élèves, ils co-construisent le dispositif avec les enseignants dans un esprit d'autogestion relative. Par exemple, les règles de fonctionnement sont définies conjointement par les enseignants et par les élèves. Par ailleurs, un contrat qui stipule les engagements respectifs de l'équipe éducative et de l'élève clarifie les attentes mutuelles. Le jeune y est considéré comme un sujet, acteur de sa scolarité. L'adulte enseignant s'attache à construire avec lui un rapport de personne à personne. Il contribue à le former à un apprentissage autonome et critique du savoir. Par ailleurs, il s'agit aussi d'inciter le jeune, devenu élève, à participer au sens plein à la vie d'une structure scolaire, en le sensibilisant à une culture commune à laquelle on lui demande d'apporter sa contribution. Le jeune, avec ses pairs et avec les enseignants, reconquiert une posture scolaire. Construisant des liens de confiance avec les enseignants, il apprend à se réapproprier les règles nécessaires à l'apprentissage dans un cadre scolaire bienveillant. Il apprend aussi à restaurer l'estime de soi grâce à l'étayage de la structure et à réfléchir son parcours pour clarifier ses choix et ses aspirations. Concernant le public, comme donc, vous l'avez précisé, il s'agit de jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. Pour le micro-lycée de Sénart, la moyenne d'âge, elle se situe autour de 20 ans. Ils résident en Seine-et-Marne. Ils ont au moins un diplôme national du brevet, le BEP ou certains CAP. Hein, ce ne sont pas une structure dérogatoire. Il y a des conditions de niveau qui sont requises pour justement y être scolarisés. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'année scolaire 2016-2017, plus de la moitié des jeunes accueillis au MLS étaient issus des classes moyennes et socialement défavorisées. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces jeunes qui reviennent volontairement aux études ? C'est qu'ils y viennent, ils le disent d'une manière très claire, pour réparer un passé difficile et douloureux, soit personnel, soit académique, soit les deux, pour pouvoir justement réapprendre à se projeter dans l'avenir. Quand on refait avec eux un petit peu l'historique de leur décrochage, on se rend compte qu'ils ont bien souvent été en butte avec des difficultés d'ordre multiple, matériel, social, qui ont été source de déstabilisation. Ils ont été confrontés à des problématiques familiales lourdes, parfois à des grossesses précoces. Et même, ils ont eu, et ils ont parfois encore, des problèmes psychologiques qui peuvent même d'ailleurs relever davantage encore de la psychiatrie. Sur le plan académique, beaucoup d'entre eux ont été confrontés à une problématique d'orientation, en particulier, ils ont été confrontés à une orientation qu'ils n'avaient pas voulu. Un certain nombre a fait preuve de déviance dans l'institution scolaire et a été exclu. D'autres ont été harcelés. Certains encore ont eu des phobies scolaires. Et ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que ces problématiques multiples, elles peuvent être encore, présentes dans le contexte du raccrochage. On dit souvent, je présente ou d'autres enseignants ou chercheurs présentent une structure de raccrochage comme le micro-lycée de Sénart, on dit souvent que ça doit être facile, le raccrochage scolaire, parce que justement les jeunes qui reviennent aux études le font de façon volontaire. Ça n'est pas aussi simple. Et qu'est-ce que l'expérience d'enseigner dans ces structures apprend de façon cuisante ? C'est que le raccrochage, c'est quelque chose de problématique. Et le projet éducatif que les enseignants ont conçu pour ces jeunes est bien souvent battu en brèche. Et c'est le cas d'ailleurs en ce qui concerne la prise en compte des acquis de l'expérience, ce qu'on peut appeler l'éducation informelle. Pourquoi un projet éducatif justement pris en défaut ? Parce que les enseignants étaient convaincus que le temps du décrochage, vous l'avez souligné, dans ces structures, on estime nécessaire qu'il ait au moins duré 6 mois, mais il est vrai que la moyenne, c'est plutôt une année de décrochage. Et parfois, certains jeunes ont décroché beaucoup plus longtemps. Donc l'idée, c'était avoir décroché, c'était donner aux jeunes la possibilité, finalement, à travers tous les acquis d'expérience qu'ils pourraient faire durant cette période, d'acquérir une meilleure connaissance d'eux-mêmes et un savoir sur la vie qui favoriserait leur retour à l'école. Dans le recrutement justement du public, cette idée, elle est souvent à l'œuvre, et certains jeunes dont le parcours scolaire pourrait laisser entendre que ce serait compliqué de les rescolariser en lycée, eh bien ces jeunes-là, s'ils ont effectivement, d'après nous, eu un parcours qui était suffisamment riche durant ce temps de décrochage, eh bien cela pouvait légitimer qu'on les accepte quand même. Donc, pour l'équipe enseignante, justement, le retour aux études, c'est l'opportunité, justement, de pouvoir donner place à tout ce qui aura été acquis pendant le temps du décrochage, dans le cadre, d'un retour à la scolarité, en le mobilisant, en l'organisant, parce qu'effectivement, pour les enseignants, ces acquis constituent une ressource. Et évidemment, pour eux, la rescolarisation s'inscrit dans un principe de continuité. Il s'agit finalement de pouvoir accomplir, via le retour aux études, un processus formatif qui a aussi pris place durant le temps de décrochage. Ce projet éducatif, comme je disais, il a été battu en brèche parce que, évidemment, quand on regarde ce qui se passe pour les jeunes en situation de raccrochage scolaire, ça ne marche pas aussi bien. Pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont du mal à rentrer dans les normes de l'apprentissage institutionnel et à se plier de nouveau aux méthodes scolaires. Ils sont presque toujours dans la résistance à l'égard de ce qu'on veut leur transmettre et dans la souffrance de se sentir décalés. Qu'est-ce qui se passe bien souvent, Ils se remettent en définitive en situation d'échec, confirmant en quelque sorte leur destin de décrocheur. Qu'est-ce qu'on constate encore? Que le désir de préserver quelque chose de leur identité antérieure crée tout particulièrement des tensions dans la démarche d'apprentissage. Pour vous donner un exemple, j'y enseignais la philosophie. Un jour, à la rentrée, je commence à exposer en quoi consistait la démarche philosophique, à savoir déconstruire ses opinions pour s'assurer finalement de ce qu'on sait, en interrogeant justement tout ce qu'on pense sans y avoir réfléchi. Et là, j'ai un jeune qui me dit « Mais moi, il n'est pas question de déconstruire ou de désapprendre, c'était son mot, ce que je n'ai pas appris ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce qu'il n'avait pas appris, c'était tout un ensemble de savoirs qu'il avait construit en dehors de l'école, et il ne voyait pas pourquoi cela qui le constituait devait être défait par une activité scolaire. Apprendre, ça présuppose d'accepter le remaniement d'une configuration antérieure de savoir qui est liée à un rapport à soi. Cela suppose de renoncer à la singularité d'un moi qui s'est, dans une mesure variable, du fait même de la période de décrochage, construit en lien avec une éducation informelle, hors donc de la forme scolaire. Ce jeune en particulier, pour vous indiquer le type d'apprentissage qu'il avait pu faire, et qu'on pourrait justement qualifier davantage d'apprentissage buissonnier, il était un chef de bande. Donc à côté finalement de sa rescolarisation, il assurait finalement sa survie en s'adonnant à des activités illicites. Vous voyez bien que le type de compétences qu'il pouvait avoir construit et qui le définissait dans son activité de chef de bande avait du mal à prendre place à l'école. Donc, on peut dire que la tension entre l'éducation informelle et la forme scolaire que le jeune vit en situation de raccrochage, permet de dessiner le contour d'une dissociation psychologique qui est vécue dans le cadre scolaire. Cette dissociation, elle est bien souvent inséparable d'une souffrance, mais elle peut aussi devenir une ressource. Et c'est évidemment dans cet objectif que les enseignants ont considéré qu'il était nécessaire de poser la question de la confrontation entre les apprentissages informels opérés pendant le temps du décrochage et la culture scolaire qu'il leur incombait de leur dispenser. Néanmoins, traiter cette question, c'est soulever des points particulièrement difficiles, à savoir, est-ce que l'éducation informelle est véritablement compatible avec le savoir scolaire, qui repose sur une formalisation spécifique de son apprentissage et de son contenu. Il n'est pas simple non plus de pouvoir dégager quelles sont les conditions qui permettraient effectivement à ces élèves de pouvoir raccrocher en mobilisant justement ces acquis construits durant le temps du décrochage et liés à des approches relevant de l'informel. Ces questions, les enseignants du micro-lycée ont commencé à se les poser parce que justement ils ont fait ce constat de ces difficultés. Et ils ont commencé à être beaucoup plus sensibles à la manière dont les élèves pouvaient se positionner dans le processus du raccrochage lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien, ils ont commencé à véritablement prendre conscience de la manière dont les élèves étaient bouleversés dans leur représentation et dans leur pratique en étant à nouveau confrontés au cadre scolaire. Justement, ces acquis personnels et ces pratiques propres à l'apprentissage informel les mettaient presque systématiquement en difficulté et en conflit avec les savoirs scolaires qu'on leur proposait de réacquérir. Ils ne savaient pas non plus les mobiliser. Pourquoi ? Parce que ce savoir informel, il faisait l'objet soit d'un déni ou d'un rejet. On voit bien qu'il leur arrivait souvent d'oublier ce qu'ils ont été ou ce qu'ils sont encore, et qui a été construit par une éducation informelle. Et ils se focalisaient sur ce qu'ils appelaient leurs lacunes et leurs handicaps, sans prendre en compte les ressources justement qu'ils avaient construites durant la déscolarisation. Ils étaient aussi dans la position de les survaloriser, parce que justement, ils considéraient que c'était ce qui leur donnait une identité. C'est ce que ce jeune homme m'avait signifié à travers cette remarque. Donc, la problématique qui est la leur, c'est qu'ils sont vraiment dans un écart entre une aspiration à la norme, le sentiment de la nécessité de la norme telle qu'elle est présente dans la forme scolaire, et puis ce qu'ils sont de par justement ce qu'ils ont construit à travers l'éducation informelle. Ce qui peut éclairer cette difficulté, ce sont des dimensions qui ont été analysées par exemple par Dubé. Les jeunes qui viennent au micro-lycée font pour la plupart partie de ceux qu'il a désignés sous l'expression de nouveaux lycéens, c'est-à-dire ces lycéens issus de la massification scolaire et qui ne bénéficient pas d'un capital culturel facilitateur d'école. Ces jeunes manquent bien souvent d'intérêt pour les enseignements abstraits qui caractérisent la forme scolaire. Et il est clair qu'effectivement, ils sont en difficulté avec une institution qui, de par les caractéristiques de sa forme, met très à distance la valeur expérientielle de la vie. Donc si les jeunes qui viennent au micro-lycée y reviennent parce que ils veulent réparer des blessures et parce qu'ils veulent accéder à une diplomation qui leur ouvre des portes dans un objectif d'insertion sociale, ils ne sont pas réellement disposés à jouer le jeu d'une institution qui, en particulier, pose en principe la déconnexion à l'égard de la vie, en particulier à travers ce qu'on a. C'est déjà... à travers ce que, justement, on appelle l'expérience vicariale. C'est-à-dire, au lieu d'accéder au monde directement, on le fait via le discours qui met en forme des savoirs que les enseignants sont censés transmettre. Donc tout ça a rendu nécessaire une mise en recherche. Et comme je vous l'ai dit, au micro-lycée de Sénart, la dimension expérimentale, elle est centrale dans l'activité pédagogique. Donc ils se sont posé la question de savoir comment effectivement on pouvait mettre en œuvre des dispositifs qui facilitent la réduction de cet écart. Et ils ont donc considéré qu'il était nécessaire de rentrer dans un dispositif de recherche en s'appuyant en particulier sur des modèles théoriques. Donc, tous les dispositifs que je vais évoquer maintenant dans cette seconde partie vont justement s'appuyer sur un cadre théorique particulier qui est celui de l'ethnométhodologie. C'est Garfinkel, un sociologue, qui a développé ce paradigme théorique. Il est fondé sur la reconnaissance de la capacité réflexive et interprétative propre à tout acteur social. L'individu, savant ou ordinaire, met en œuvre dans la routine de ses activités quotidiennes une certaine capacité d'interprétation dont il a seul la compétence. Donc, l'idée, c'est de considérer le comportement de ces élèves qui résistent comme porteur de tout un ensemble de représentations pratiques que l'on va essayer de dégager à partir du dispositif de recherche. Et dans un état d'esprit qui est particulier, que Garfinkel appelle l'indifférence ethnométhodologique, c'est-à-dire en étudiant les phénomènes sans être tenté d'apprécier ni leur nécessité, ni leur valeur, ni leur efficacité. Donc vous voyez bien que ça présuppose un décentrement des enseignants à l'égard finalement de leur performance professionnelle. L'idée étant effectivement, en étant au plus près des élèves dans leur pratique sociale, justement d'élèves, découvrir ce qui... peut constituer des ressorts de leur attitude afin justement dépasser ces écarts en articulant justement éducation informelle et forme scolaire. Donc l'idée effectivement c'était de découvrir finalement ces représentations. Et qu'est-ce qu'on a vu en les étudiant à travers justement les pratiques? C'est que finalement, ce qui pouvait poser difficulté aux jeunes, c'était non seulement le type de savoir et la manière de le transmettre, que la socialisation justement de l'apprentissage lui-même, c'est-à-dire la manière dont s'organisaient les rapports sociaux autour des situations d'apprentissage. Et ce sont les deux aspects sur lesquels, justement, on a travaillé avec les chercheurs et avec lesquels j'ai travaillé lorsque je suis devenue fondamentalement chercheuse. Alors, juste pour dire que le dispositif de recherche qui a pris plusieurs formes, qui a été mise en œuvre, c'est un dispositif de recherche collaborative, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien de faire en sorte que les praticiens, justement, s'ouvrent à la recherche en co-construisant avec les chercheurs, dont c'est le statut, l'objet sur lequel ils voulaient travailler. Alors, cela s'est déployé à travers la mise en place et l'analyse de plusieurs tentatives. La première tentative a consisté à repérer et à mobiliser des compétences issues des apprentissages informels pour les intégrer en les formalisant dans le cursus justement scolaire des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que les enseignants apprennent à s'entretenir avec les jeunes. Et il y a eu tout un travail autour, justement, de ce qu'en ethnométhodologie, on appelle l'indexicabilité. Qu'est-ce que c'est que l'indexicabilité? C'est l'idée que, finalement, les mots sont naturellement incomplets dans leur sens, et que pour que ce sens se clarifie pleinement, il faut prendre en compte le contexte de production de ces situations où ils sont verbalisés. Donc, les mots sont fondamentalement indexés à une situation d'échange linguistique, et c'est dans le cadre de ces échanges qu'on peut comprendre quel sens les mots prennent pour les uns et pour les autres. Et en particulier, il y a eu tout un travail autour du mot « apprentissage », puisque, effectivement, une des caractéristiques des enseignants, c'est qu'ils étaient peu rompus, justement, aux spécificités de l'éducation informelle. Et pour pouvoir, justement, comprendre en quoi ça consistait et comment, effectivement, les jeunes configuraient les apprentissages et les modes de savoir qu'ils y avaient fait, eh bien, il fallait forcément travailler sur la question, justement, sémantique. Le cadre, ça a été une expérimentation nationale visant à compléter le livret de compétences scolaires par des compétences extrascolaires. L'objectif, c'était effectivement de voir, à travers un dispositif d'entretien, comment on pouvait faire émerger des compétences qui n'étaient pas conscientisées ou dévalorisées par les jeunes, donc justement dans le champ scolaire. L'expérimentation a été construite pour éviter de tomber dans un livret d'incompétences. Hein. L'idée, c'était bien de construire une méthodologie qui permette formuler avec et pour chaque jeune des compétences, des habiletés, des expériences positives, hein, et non pas de chercher à situer tout cela dans un référentiel préétabli qui pourrait justement révéler des manques. Donc les enseignants ont travaillé sur cette notion de compétences, hein, définie très largement et toujours associée à une situation dans laquelle elle pouvait être repérée. Donc, pour les enseignants, hein, ça a été l'occasion pour eux de travailler la question de l'entretien, hein, et en les mettant dans la nécessité de se décentrer de leur posture professionnelle pour mieux conscientiser tous les présupposés qui étaient les leurs, hein, concernant justement le savoir, la nature du savoir, la nature de l'apprentissage, de manière à pouvoir mieux comprendre quel était justement le rapport au savoir et la conception du savoir que les jeunes avaient. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a permis de mettre en évidence, ce travail justement d'entretien pour mettre en évidence des compétences qui pourraient être valorisées dans le cursus? Ce que ça a mis en évidence, c'est effectivement une contribution surtout importante relative justement à l'amélioration de l'estime de soi, parce que justement, ces entretiens valorisaient des activités qui se situaient justement en dehors du champ scolaire. Donc, cette pratique de l'entretien, elle a permis justement aux jeunes de prendre un recul et à l'égard de ce qu'ils savaient, et d'alléger le fardeau du handicap scolaire. L'élément vraiment très important, c'est que, prenant conscience de leur réussite, les élèves ont pu renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle, et ce sentiment d'efficacité personnelle, vous savez qu'il est toujours relatif à des situations précises, il a pu être transféré sur certaines situations d'apprentissage scolaire. Et donc, ça leur a permis d'échapper, hein, au moins en partie, au cercle vicieux de la résignation apprise qu'on constate, hein, très fréquemment chez les jeunes en situation de raccrochage scolaire. Néanmoins, quand les enseignants ont cherché à approfondir ces entretiens, eh bien, ils ont vu que c'était compliqué à la fois pour les jeunes et pour eux, de formaliser finalement ces acquis, parce qu'il y avait toujours la tentation pour les jeunes de revenir finalement à la forme scolaire du savoir, et les enseignants eux-mêmes n'arrivaient pas à opérer cette conversion, ce transfert, qui était pourtant finalement au cœur du projet initial. Donc, ça a amené le collectif à aborder les choses différemment, cette fois-ci en fondant leur tentative sur le mouvement inverse, au lieu d'aller des caractéristiques de l'éducation informelle vers la forme scolaire par ce travail de formalisation transférentielle, si je puis dire. Il s'est agi, au contraire, de transférer dans les pratiques pédagogiques scolaires des traits distinctifs de l'éducation informelle, donc mouvement inverse. Donc, qu'est-ce qui a été mis en avant ? Donc, certains chercheurs, comme Greenfield et Lave, ont configuré un peu plus ce en quoi consistaient les traits distinctifs de l'éducation informelle. L'éducation informelle, c'est une éducation intégrée à la vie courante avec un faible degré d'institutionnalisation. Donc, elle valorise des activités qui se font en dehors des espaces et du temps scolaire. L'éducation informelle, ce qui est très clair, c'est que l'apprenant, il est responsable de ses acquisitions, par opposition à l'école, où c'est l'enseignant qui a la charge de la transmission. Il n'y a pas de programme explicite. Les apprentissages se font en lien avec les expériences proposées. Et donc, on apprend beaucoup plus en observant, en imitant, qu'au travers, finalement, d'interactions verbales. Et la motivation dans l'apprentissage informel, elle est dans la contribution sociale. Donc, ces différents facteurs que j'ai évoqués, eh bien, les enseignants les ont mobilisés dans un dispositif qu'ils ont intitulé « Éducation au choix ». C'était particulièrement valable pour des jeunes qui étaient vraiment au tout début du processus de retour à l'école, dans un dispositif qu'on a intitulé Rallye. Et puis après, ce dispositif d'éducation au choix, il s'est vraiment étendu à tous. Alors, ça consistait en quoi ? L'idée, c'était de contribuer finalement à la réappropriation de la posture d'élève, justement en s'appuyant sur l'observation d'un certain nombre de situations. Ces jeunes se déplaçaient dans la structure du micro-lycée, allaient observer des cours, allaient observer des temps d'activité des enseignants qui n'étaient pas des temps de cours. Et l'idée, c'était qu'ensuite, ils rendent compte de ces observations afin de prendre conscience de la manière dont ils pouvaient s'approprier, par ce biais, ce qui se jouait dans cette structure de raccrochage. Non seulement, effectivement, il y avait ce projet de leur permettre de construire autrement leur posture d'élève, mais il y avait aussi l'idée de susciter en eux un intérêt pour l'appropriation de ces contenus en leur donnant la responsabilité d'être les ambassadeurs du micro-lycée de Sénart dans des cadres autres que l'école, évidemment, dans des salons d'orientation, dans des tables rondes, autour de la question du décrochage. Donc, cette émulation autour de la contribution sociale que ces jeunes pouvaient opérer pour valoriser le micro-lycée a été un facteur d'engagement dans ce travail. Néanmoins, ce qu'on a constaté, c'est que si un certain nombre de jeunes s'y mobilisaient, ce n'était pas le cas de tous, et il y avait toujours évidemment la crainte de ne pas faire ce qu'il fallait faire pour obtenir le diplôme. Donc on voit effectivement toujours la pression de la forme scolaire comme norme à prendre en compte, même si elle dérange et fait souffrir. Donc, nous avons basculé sur un troisième terrain d'expérimentation. On s'est dit que pour travailler cette articulation entre éducation informelle et forme scolaire, il fallait se préoccuper davantage des modes de socialisation de l'apprentissage qui étaient justement caractéristiques de l'éducation informelle. Et donc, on s'est intéressé finalement à deux spécificités de ces modes de socialisation. Première spécificité, c'est ce que Lev et Wenger appellent la participation périphérique légitime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'apprentissage, elle se fait en lien avec une intégration sociale. Donc, il s'agit de passer de la position périphérique de novice, qui apprend le vocabulaire adéquat et les implicites de routine quotidienne, à la position centrale de maître, d'accord, au modèle duquel il s'agit de s'identifier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans une communauté de pratique ? Eh bien, ça veut dire participer de plus en plus complètement, justement, aux activités qui sont les siennes. Alors, c'était important pour nous de valoriser cette approche parce qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas chez les jeunes qui venaient pourtant de façon volontaire, c'est que une fois l'inscription faite, durant le temps qu'on appelle le temps d'intégration, on constatait qu'ils restaient un petit peu sur le bord, qu'ils semblaient un petit peu en retrait, qu'ils observaient. Et vous savez bien que le réflexe de l'enseignant, c'est de s'attendre à ce que les jeunes, lorsqu'effectivement ils arrivent dans une salle de classe ou dans un établissement scolaire, s'engagent pleinement dans les activités, justement, qu'on leur propose. Et là, on avait ce paradoxe que ces jeunes volontaires, semblaient être dans une forme de retrait qui pouvait même donner, finalement, le sentiment d'un rejet ou d'une absence totale d'engagement. Et à la lumière, justement, de ce concept de participation périphérique légitime, on a compris que justement c'était la façon à eux qu'ils avaient, leur façon à eux de rentrer justement dans la communauté de pratique auquel correspondait finalement la vie d'un établissement scolaire. Donc au lieu effectivement de le considérer comme négatif, on en a fait un levier pour effectivement favoriser le retour à l'apprentissage scolaire. Deuxième modalité importante de socialisation, c'est de l'apprentissage. C'est ce que Barbara Rogoff appelle la participation guidée. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans la forme traditionnelle de l'apprentissage scolaire avec la centralité du maître et les élèves en face qui sont dans une attitude plutôt passive. Qu'est-ce que ça veut dire, la participation guidée ? Ça veut dire que l'apprentissage se fait à travers l'interaction entre des personnes qui ne sont pas de même niveau de connaissance ou de formation, qui participent ensemble à une activité culturellement valorisée. Donc, en fait, c'est une forme d'appropriation participative du savoir qui s'appuie sur une activité partagée. Ça instaure une forme d'échange où l'écart entre celui qui sait et celui qui apprend est atténué, voire gommé. Ça renvoie aussi à une des fortes critiques des jeunes face justement aux enseignants. C'est une posture qui donne le sentiment que les enseignants sont seuls détenteurs du savoir et que justement les jeunes ne savent rien. Donc ce type de modalité a été tout à fait intéressante parce que elle a permis justement en particulier des déblocages de l'écrit pour un certain nombre de jeunes qui sont finalement rentrés dans le travail de l'écrit dans une activité partagée avec un enseignant. Donc cette modalité, elle a été particulièrement valorisée pour des jeunes qui, justement, étaient vraiment en situation de grande difficulté, tout particulièrement pour le passage à l'écrit. La dernière tentative qui a été faite, elle a complètement changé finalement la perspective. Pourquoi ? Parce que dans les premières tentatives, l'idée, c'était finalement un petit peu d'articuler éducation informelle et forme scolaire en résorbant finalement un peu cet écart. Dans la dernière modalité, on a cherché l'articulation du côté de la réflexivité des élèves eux-mêmes, à travers un dispositif qui permettait pour chacun de travailler à penser PEN-SER et à penser PAN-SER, justement, la discontinuité entre les acquis d'expérience et les attentes de la forme scolaire. Dans ce contexte, justement, particulier, il s'agissait de contribuer à la compréhension singulière des enjeux de cette articulation, qui, évidemment, met en mouvement tout un processus de connaissance de soi. Il s'agissait de favoriser une mise à distance de la souffrance et des émotions qui accompagnent cette discontinuité pour que chacun puisse construire des transactions entre les mondes de vie du dedans et du dehors de l'école. Donc, ce dispositif, finalement, il s'est fondé sur une mise à distance de l'enseignant qui, finalement, s'est proposé de construire un dispositif dans lequel, finalement, il n'intervenait quasiment plus, si ce n'est à titre d'animateur ou de régulateur. Ce dispositif, c'est ce qu'on a baptisé l'atelier biographique de projet. Ce qui était intéressant, c'est que dans cet atelier biographique de projet, on synthétisait des pratiques qu'on avait mises à l'œuvre justement dans les tentatives précédentes que j'ai exposées, hein, et ces pratiques qui permettaient de travailler l'articulation entre apprentissage apprentissage informel et forme scolaire. On y retrouvait donc l'importance de la communauté de pratique, donc la socialisation, l'intérêt pour la socialisation justement de l'apprentissage. On y retrouvait aussi le travail de réflexivité autour de la mise en mots dans les entretiens. Et on retrouvait aussi finalement des caractéristiques, des traits caractéristiques de l'éducation informelle autour justement de la réduction des degrés d'institutionnalisation, par exemple. Cet atelier s'est fondé sur un travail biographique. Vous avez évoqué l'importance dans mes recherches de ces dimensions biographiques. Travail biographique veut dire ici une activité réflexive qui permet à l'individu, dans les conditions de son inscription sociale, d'intégrer, de structurer, d'interpréter les situations et les événements de son existence afin de s'y reconnaître et de s'y configurer. Et finalement, c'est ce travail biographique qui a consisté, qui a représenté véritablement le cœur de cette réflexion sur l'articulation entre forme scolaire et éducation informelle. Bon, si j'avais eu du temps, je vous aurais expliqué de plus près en quoi il consiste, mais vous avez l'idée générale. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que il faut véritablement prendre en compte l'idée que on ne peut pas restaurer cette continuité éducative en gommant l'écart entre éducation informelle et forme scolaire. Ce qui est vraiment au cœur du travail de restauration d'une continuité éducative qui est en même temps une continuité biographique qui permet au sujet de se reconnaître en articulant justement un passé et un devenir dans le présent finalement de la reprise d'études. Ce qui compte vraiment, c'est la disponibilité qu'on leur donne de pouvoir justement réfléchir cet écart. Ces dispositifs, finalement, ils mettent en place qu'on pourrait caractériser à travers l'expression d'environnement capacitant, hein, tel que Ferragut-Houdet a pu le définir. Hein. C'est un environnement qui est favorable au développement du pouvoir d'agir des individus, et c'est ce développement du pouvoir d'agir des individus soutenu par cette mise en réflexivité qui va favoriser une articulation entre forme scolaire et éducation informelle. Je vous remercie et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la façon dont j'ai accéléré, l'idée étant quand même de pouvoir vous présenter les dispositifs et la démarche hein, qui était au cœur hein, du projet de recherche et de l'expérimentation pédagogique qui a été menée dans cette structure expérimentale de raccrochage scolaire. Voilà.